Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois et de partager avec chacun de vous mon travail de thérapeute. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ce qui m'anime quand je suis devant mon patient. Et ce qui m'anime, c'est de vouloir qu'il souffre moins, qu'il guérisse. Oui, ceux de la guérison dont je voudrais vous parler. Bien sûr, je sais déjà qu'aucun patient ne sera jamais totalement guéri et que la psychanalyse, comme tout remède, ne guérit pas tous les patients ni ne le guérit de manière complète et définitive. Il restera toujours une part de souffrance. Une souffrance irréductible, inhérente à la vie, je dirais même nécessaire à la vie. Ce n'est pas vivre que vivre sans souffrance. Dans un deuxième temps, je répondrai aux questions sur la guérison que m'ont posées celles et ceux d'entre vous qui ont écouté le podcast. Je vous rappelle que chaque épisode de notre émission est disponible à l'avance en podcast pour que vous puissiez l'écouter et enregistrer ensuite vos réactions et vos questions. Vous pouvez les enregistrer sur notre page L'Inconscient, sur le répondeur du 01 56 40 64 04 ou encore sur votre portable grâce à l'application France Inter.
L'Inconscient, Docteur Nasio, sur France Inter.
Mais qu'est-ce que la guérison pour le psychanalyste que je suis? La guérison n'est pas seulement la diminution de la souffrance pour laquelle le patient est venu me consulter, non. La guérison est aussi un changement profond de l'image que le patient a de lui-même et de ses proches. Ce qui a changé à l'issue d'une analyse, c'est le regard que le patient porte sur lui-même. Je pense ici à une merveilleuse phrase d'une grande romancière, Marguerite Jourcenar. Voici ce qu'elle écrit. « Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un regard intelligent sur soi-même. » Laissez-moi vous la relire. « Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un regard intelligent sur soi-même. » C'est cela notre idéal, que le patient, en ayant terminé son analyse, ait l'impression de vivre une seconde naissance. Quand une thérapie est efficace, elle conduit le patient à changer la vision qu'il avait de lui-même. Elle lui apprend à rentrer en soi, à éprouver comme un étonnement d'être et à se regarder différemment. Pour illustrer ce double versant de la guérison, réduction de la souffrance et nouveau regard sur soi-même, je vous raconterai l'histoire de Simon, un jeune architecte qui souffrait d'une dépression sévère. Mais venons-en à la guérison. Avant de répondre à la question qu'on me pose souvent, qu'est-ce qui a changé chez un patient qui va mieux ? Je voudrais vous parler de moi, de mon attitude devant la guérison. La toute première chose à vous dire est que si vous voulez guérir un patient, il faut d'emblée avoir l'envie d'aller vers lui et entrer dans son monde intérieur, et ce, quelle que soit sa pathologie. Lorsque je reçois un patient pour la première fois et qu'il se plaint des différents symptômes ou d'un mal de vivre insupportable, je n'ai qu'une seule idée en tête. Non pas de le guérir, comme on le guérirait d'une bronchite, mais de faire tout mon possible pour qu'il souffre moins. Je veux lui être utile sans être obnubilé par le souci de le débarrasser de ses symptômes. Oui, je veux le débarrasser de ses symptômes, et si possible, pour éviter la récidive, aller plus loin et dévitaliser le traumatisme le plus souvent infantile, traumatisme toujours virulent qui est la cause des symptômes. Je veux tout cela, mais je ne m'obsède pas. Je reste serein. Je sais que si je veux mettre la chance de mon côté et voir plus tard la souffrance de mon patient s'atténuer, je ne dois pas attaquer de front les troubles pour lesquels il me consulte. J'ai appris que pour réussir à guérir mon patient, il ne faut pas m'acharner à le guérir. Pourquoi ? Parce que je n'oublie pas qu'un patient qui souffre, certes, ne veut plus souffrir comme nous tous, mais reste attaché à son symptôme. Et je dirais même que son symptôme est devenu une béquille pour lui, qu'il ne veut pas lâcher. Il aime son symptôme. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Nous aimons notre souffrance parce que notre souffrance est à nous. Elle est ma souffrance. Je souffre, mais je reste moi-même. Souvenez-vous du poème de Baudelaire. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Donnez-moi la main, viens par ici. Non, décidément, je ne dois pas attaquer de front la douleur du patient. Je dois m'occuper de lui. Il me faut, dès la première rencontre, nouer avec mon patient un lien émotionnel fort. Lui croit en moi. Il a confiance en moi. Et moi, je crois en nous. Je crois que nous réussirons ensemble. Si je devais adresser une recommandation à un jeune thérapeute, je lui dirais « Pour le moment, oubliez les symptômes. Soyez vous-même, sans cesser d'être le professionnel que vous êtes, et montrez-vous authentiquement confiant dans l'issue positive de la cure. » En un mot, pour voir un jour les symptômes s'estomper, il faut, dès le départ, nourrir une mutuelle espérance. Ce préalable étant posé, je voudrais maintenant retrouver la question de tout à l'heure. Quels sont les signes qui nous montrent qu'un patient va mieux ? Je répondrai simplement en pensant à tous les analysants qui ont fini leur cure, heureux de l'avoir engagé. Premier signe. Après que se sont écoulées 2 ou 3 années d'analyse, le premier signe qui nous indique que la guérison a commencé, c'est lorsque notre patient, avec une spontanéité sincère, s'interroge et nous interroge sur le temps qui reste d'ici la fin de la cure. Pensez-vous qu'on soit encore loin ? Me demande-t-il. Ou bien, il me déclare qu'il a l'impression d'avoir tout dit sur ses conflits et que, s'il continue à venir à ses séances, c'est en vérité pour le plaisir de me voir et même de retrouver le quartier. Vous n'imaginez pas, pour les patients, le quartier est fondamental. Le café le matin, le lieu, les arbres, le pont, la Seine. J'aime bien venir, me dit-il. Mais vous savez, docteur, je ne sais plus quoi vous dire. Bien sûr, quand j'entends une parole aussi agréable, je souris parce que Je sais par expérience que dans peu de temps, nous allons nous quitter et que notre travail de thérapie aura abouti. Un autre signe de guérison est, comme nous l'avons vu lors du dernier épisode, la nette diminution des symptômes. Rappelez-vous le cas de William qui, à la fin de la cure, a vu se réduire les compulsions masochistes qui rendaient sa vie insupportable. Le troisième signe de guérison est, comme je viens de vous le dire, un nouveau regard que les patients portent sur lui-même et sur les proches, ainsi qu'une manière différente de faire face aux difficultés de l'existence. Justement, je voudrais m'arrêter en détail sur cette nouvelle disposition d'esprit. Mais auparavant, j'aimerais émettre une réserve importante. Toutes les améliorations dont un patient peut bénéficier ne modifieront jamais son identité profonde. Une analyse ne peut changer le caractère d'une personne. Si changement il y a, il porte sur les aspects de sa personnalité qui le faisaient souffrir, mais pas sur son identité. Simon est entré en cure en étant Simon et il quitte sa cure en étant toujours Simon. Mais un Simon qui a changé la manière de s'aimer, d'aimer les autres et qui a acquis une nouvelle disposition d'esprit. Cette nouvelle disposition d'esprit que le patient guéri tend à acquérir sans jamais y parvenir pleinement, attention, jamais y parvenir pleinement, est un ensemble d'attitudes qui lui permettent, sinon d'éviter les conflits, au moins de les tempérer. Quelles sont ces attitudes salutaires? Pour bien me faire comprendre, je vais les décliner sous une forme catégorique. Je vais avoir des affirmations tranchées. Mais je n'oublie pas, et je vous demande de ne pas oublier, que chacune d'elles est plutôt une attitude idéale qu'un comportement observable. Première attitude. Le patient, en fin d'analyse, reconnaît ses défauts et valorise ses qualités sans exagération. Il ne se sent ni le plus minable, ni le plus génial des êtres. Notre tâche d'analyste est de consolider l'estime de soi-même chez nos patients. Mais une estime de soi teintée d'humilité, bien à l'opposé d'un amour démesuré de soi. Deuxième attitude. Le patient, en fin d'analyse, agit quand il faut agir, sans mettre en doute ses capacités. Nous avons ici la sœur jumelle de l'estime de soi, qui est la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est un sentiment. C'est le sentiment qui fait que l'on se fie à soi-même devant une action à accomplir. Je suis prêt à agir sans me demander obstinément si je suis capable ou non de réussir. La confiance en soi signifie que je m'oublie. J'agis sans penser à moi et surtout sans me juger. Je le dis toujours, quand vous êtes confiant en vous-même, vous n'y pensez pas à vous, vous allez à l'action. Vous avez déjà prévu comment agir, mais vous allez à l'action. Vous ne vous jugez pas, vous ne vous évaluez pas. Si je dis « je peux », »,« je ne peux pas », c'est ça, ne pas avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est « j'y vais ». Je suis occupé par ce que j'ai à faire, comme vous, en ces moments, avec vous. J'ai confiance en moi, parce que je suis en train de m'occuper de vous parler. Et je ne me demande pas si je peux ou je ne peux pas. Troisième attitude. le patient en fin d'analyse a compris que ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas l'événement malheureux qui nous arrive, mais notre manière de l'interpréter et de le vivre. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que nous portons sur les choses. Par exemple, je perds ma mère et quoique dévasté, j'arrive à vivre sans me sentir détruit parce que j'ai compris que cette mort était inévitable, qu'elle ne dépendait pas de moi. Le névrosé, en revanche, croit que tout ce qui arrive autour de lui dépend de lui. Et c'est pourquoi il se sent souvent coupable, injustement coupable, faussement coupable, inutilement coupable. Quatrième attitude, le patient, une fois guéri, peut encaisser le coup dur de la vie et se relever parce qu'il a appris à relativiser. N'oubliez pas, rien n'est définitif, ni absolu, ni total. Et perdre n'est jamais tout perdre. Être guéri, c'est avoir la force de se relever des épreuves difficiles. Le problème n'est pas de chuter, mais de savoir se relever. Cinquième attitude. Qu'il soit homme ou femme, notre patient ne craint pas d'être dépendant. Ce n'est pas parce que nous nous plions à une discipline ou parce que nous respectons les directives d'un responsable ou encore parce que nous acceptons les exigences de notre conjoint que nous devons nous sentir soumis ou rabaissés. Avoir peur de dépendre, voilà une angoisse qui révèle que le patient névrosé n'est pas encore sorti de sa névrose. C'est le cas si fréquent des patients qui préfèrent rester seuls que s'engager en amour. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de dépendre de leur partenaire et de leur amour. Ils ont peur de la dépendance parce qu'au fond, ils ont peur de trop souffrir si par malheur, l'aimé devait les quitter un jour. À l'opposé de cette crainte névrotique, je résumerai cette cinquième attitude en vous disant « Être guéri, ce n'est pas craindre d'être dépendant. » Sixième attitude. Être guéri, c'est aussi ne pas avoir honte de jouer comme un enfant parce qu'on a compris qu'être un homme ou une femme mûre, c'est se permettre de régresser à l'enfance sans pour autant se sentir ridicule. Être guéri, c'est aimer l'enfant qui vit toujours en nous et le laisser se manifester dans la joie. Pour terminer, septième attitude. Je dirais que les patients en fin de cure s'acceptent avec ces contradictions, même s'il est parfois dépassé par des bouffées d'angoisse, des crises de colère ou des accès de jalousie, voire des perversions. Il fait ainsi coexister en lui des élans contradictoires tels que l'amour et la haine, le courage et la lâcheté, le désir et la culpabilité ou encore l'humilité et l'arrogance.
Inconscient avec le docteur Nasio.
Maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire de Simon, un jeune architecte de 33 ans, au visage d'adolescent, enfant unique, trop choyé par sa grand-mère paternelle. Il a suivi une analyse durant plus de 3 ans, avec une nette amélioration de son état et une attitude devant la vie qu'il a résumée dans un poème émouvant que je vais vous lire après vous avoir fait connaître l'essentiel de sa souffrance. Simon est venu me consulter il y a quelques années déjà, après avoir rencontré différents psychiatres et psychothérapeutes. Il m'explique, lors du premier entretien, que depuis son adolescence, il a fait 3 dépressions, dont la dernière l'a conduit, après une double tentative de suicide, à être hospitalisé et diagnostiqué malade bipolaire. Doutant de ces diagnostics, Simon avait arrêté de lui-même la prise des médicaments destinés à traiter le trouble bipolaire. J'aurai beaucoup de détails à vous donner à propos de ce premier rendez-vous avec Simon, mais je préfère me limiter à vous raconter un fait étonnant qui s'est produit lors de cet entretien. Un fait qui va orienter mon interprétation psychanalytique et quelques semaines plus tard, m'amener à dessiner avec le patient la ligne du temps de son histoire, ponctuée par les différents épisodes dépressifs qu'il avait traversés. Mais venons à ce premier entretien. Que s'est-il donc passé ? À un moment de notre échange, il m'apprend qu'il a tenté de se suicider par 2 fois. Quand je lui demande de quelle façon, il me répond avec une pointe de malice, par pendaison. Comment cela, lui dis-je ? Je me suis pendu à la poignée d'une porte. Mais cela n'a pas marché. Vous avez essayé 2 fois de la même façon ? Oui, mais dans la première, je ne me suis pas laissé glisser suffisamment vers le bas pour que la corde m'étrangle. Et dans la seconde, j'ai pris peur, docteur, et je renonçais au moment où la corde me serrait le cou trop fort. En l'écoutant, je me suis dit que ce n'était pas des véritables tentatives de suicide. Quelque peu déconcerté, je lui demande d'aller à la porte et de me montrer concrètement comment il avait procédé. C'est alors qu'il se lève de sa chaise, s'assied par terre, le dos contre la porte, lève les bras et la tête penchée sur les côtés, mime le geste d'entourer son cou d'un cordon qui serait relié à la poignée. Devant une scène si théâtrale, j'ai tout de suite compris que les 2 tentatives de suicide, où se mêlent le tragique et le dérisoire, indiquait que Simon souffrait d'une névrose hystérique, substrat de sa dépression, et non pas d'un trouble bipolaire. Je vous précise qu'une névrose hystérique, vous savez, nous allons revenir dans d'autres émissions, c'est très important, les thèmes de la névrose hystérique et des autres névroses, mais nous allons parler après, prochainement. Donc, je vous précise qu'une névrose hystérique est une souffrance qui tourne autour de l'amour déçu. Les patients hystériques sont des patients qui se sentent mal aimés, insatisfaits de leur vie, et souvent tristes, jusqu'à se déprimer, comme ce fut le cas de Simon. Je dois vous dire que mon diagnostic de névrose hystérique orienta la vie que je lui ai donnée à la fin de notre premier entretien. Mais ce diagnostic fut aussi l'aiguillon qui, dans la science qui a suivi, m'a incité à reprendre son histoire avec papier et crayon, l'histoire d'un patient qui se déprime à 3 reprises. C'est ainsi que dans les entretiens qui ont suivi, nous avons dessiné ensemble la ligne du temps, la chronologie de son histoire, en y marquant aussi bien le traumatisme subi dans son enfance avec la mort tragique et soudaine de sa grand-mère adorée que les 3 déceptions amoureuses qui l'ont précipité dans la dépression et l'ont conduit à tenter de se suicider. Captivé par le schéma que nous venions de dessiner, Simon me demande s'il peut l'emporter avec lui. En arrivant à l'une des séances suivantes, il me surprend en dépliant sur mon bureau, en bon architecte qu'il est, une très longue frise de plus de 2 mètres où tous les jalons de l'histoire de sa maladie depuis l'enfance sont minutieusement détaillés. Après cette séance décisive, nous nous sommes engagés dans une analyse consacrée surtout à revenir sur son traumatisme infantile, sur sa place de fils unique délaissé par ses parents et surprotégé par sa grand-mère, ainsi que sur les cruelles déceptions amoureuses dont il ne s'est pas remis. Quelques années après, cette analyse s'est conclue de manière très touchante. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Simon, parce que, justement, lors de la dernière séance, Simon m'a dédié un poème que je voudrais vous lire, parce qu'il condense en peu de mots l'essentiel de ce que j'ai voulu vous transmettre sur la disposition d'esprit d'un patient qui a terminé sa cure. Simon a intitulé son poème « L'apaisement ». Et voici ce qu'il écrit et qu'il m'a lu en séance. Aujourd'hui, je ne rêve plus d'une autre vie ni d'absolu. Je ne souffre plus d'une cruelle souffrance inconnue. Je suis réconcilié avec mes envies oubliées. Enfin libéré, je peux me réinventer. Vous imaginez bien mon émotion de recevoir un tel témoignage à la fin de cette cure. Cependant, au-delà de la satisfaction de partager avec mon patient un moment de joie, je me suis demandé, et je me demande encore aujourd'hui que je vous parle, comment, analysant et analyste, nous en sommes venus à atténuer la névrose. Chaque fois que je m'interroge sur le ressort ultime de la guérison de l'un de mes patients, je ne sais pas répondre. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que mon patient guérisse et pourtant, je reste surpris et ému de le voir enfin débarrassé de ses tourments. Je dois l'affirmer sans hésiter. La survenue de la guérison demeure pour moi, psychanalyste, une énigme. Toute la théorie psychanalytique n'est qu'une immense tentative de répondre à la question que chaque psychanalyste se pose après le dernier rendez-vous, avec un patient qui s'est vu enfin délivré de sa souffrance. Cette question que nous nous posons après la dernière poignée de main, et une fois la porte refermé derrière celui qui ne sera plus notre patient, cette question est la suivante. Que s'est-il passé pour qu'il aille bien maintenant? À la fin de chaque cure réussie, je retrouve toujours la même interrogation sans pouvoir y répondre vraiment. Ainsi, la meilleure devise qu'un psychanalyste puisse se donner s'inspire du célèbre adage d'Ambroise Paré. « Je l'ai soigné, écrit-il, Dieu le guérit. » De même, je conclurai mon récit d'aujourd'hui en vous proposant l'aphorisme suivant. « J'écoute mon patient avec tout mon être. » Toute mon expérience et tout mon savoir des psychanalystes, mais c'est l'inconnu qui le guérit.
L'inconscient avec le docteur Nasio.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la guérison en psychanalyse. Maintenant, ne partez pas, restez à l'écoute. Après le disque, je vais répondre aux questions que vous m'avez adressées après avoir écouté le podcast interactif qui est en ligne sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Eh bien, maintenant, c'est à vous de me poser vos questions. Je vous écoute.
Bonjour docteur Nasio, je m'appelle Bernard. Mon père, qui était de structure perverse, est mort il y a 10 ans. Et pourtant, il ne quitte pas mes pensées. Comment me libérer de cette emprise et retrouver confiance en moi ? Merci.
Merci de votre question, qui est plutôt une question sur vous-même. Je dirais que vous avez de la peine pour votre papa. Vous avez aussi de la rage contre lui. Et surtout, l'impression que j'ai, c'est que vous sentez, par certains traits, que vous êtes comme lui. Mais au-delà de tout, je vous dirais, vous me permettez, que vous l'aimez. Cet homme, tout perverse qu'il a été, vous l'aimez. Et par ailleurs, j'ajouterai que vous devez avoir l'habitude d'être torturé par des pensées obsédantes. Si vous me posez cette question à propos de votre papa et que vous dites que vous ne arrêtez pas de penser à lui depuis 10 ans, eh bien, je dirais qu'avant la mort de votre papa, vous aviez déjà ce type de pensée qui vous torturait. Par ailleurs, je suppose, si vous me permettez, je ne vous connais pas, vous devez avoir l'habitude de sentir ces tourments des pensées obsédantes. Parce qu'un homme qui pense à la mort de son père de façon préoccupante, pour que vous me posiez la question, depuis 10 ans, je dirais que même avant la mort de votre papa, vous aviez déjà connu ce type de problème de la pensée qui se installe dans votre tête. Et par exemple, que vous avez pu avoir déjà lors d'épreuves rencontrées de votre vie, eh bien vous avez dû avoir ce type de problème déjà avec une femme, par exemple. Vous me demandez aussi, Bernard, comment vous libérer de ces pensées, de cette emprise, comme vous dites, du souvenir de votre père? Je dirais, soyez bienveillant avec lui, avec le père qui est en vous. Pardonnez-lui ses fautes, et ainsi vous vous pardonnerez les vôtres.
Oui, bonjour, je suis Nadia de Cahors. Je me permets de vous appeler, donc déjà pour vous féliciter pour cette émission, pour la clarté avec laquelle vous expliquez tout. Vraiment, c'est un vrai bonheur de vous écouter. J'ai écouté hier soir en podcast l'émission sur l'apaisement, Simon, sur la guérison. Et je partage beaucoup de points de vue avec vous, excepté un, en ce qui concerne le besoin de l'autre. Vous dites qu'on a besoin de l'autre, que ce n'est pas une tare d'avoir besoin de quelqu'un. Et moi, j'ai l'impression que pour vivre bien avec quelqu'un, il ne faut pas avoir besoin de lui. Il faut d'abord être capable de vivre bien seul pour pouvoir vivre bien à deux. C'est-à-dire ne pas compter uniquement sur l'autre pour vivre, mais que ce soit un complément. Voilà, c'était juste pour apporter ce petit point. Et je vous remercie particulièrement pour l'émission sur la mélancolie et sur François Dolto qui m'ont énormément touchée. Merci à vous, vraiment.
Merci Nadia de vos commentaires sur nos émissions. Effectivement, j'essaye de penser à vous, aux auditeurs, aux auditrices. Et justement, Nadia, vous me faites penser que quand j'écris, quand j'ai produit cette émission, je suis avec vous. Je suis avec l'autre. J'ai des pans de vous. Je ne pourrais pas écrire si je ne m'adresse pas à vous. Donc, mon idée profonde, c'est que l'être humain, tout être humain, a besoin d'un autre. Nous n'avons pas à faire en sorte que nous ayons à chercher une sorte d'autonomie. Je ne suis pas dans l'idée de l'autonomie, je suis dans l'idée d'avoir l'autre à côté de moi, d'en dépendre, de l'aimer, de me sentir aimé, sans que cela affecte mon être le plus autonome et le plus intime que je suis. C'est pour ça, je comprends, parce qu'aujourd'hui, il y a eu comme une idée qu'il faut chercher l'autonomie, qu'il faut pouvoir être seul, un peu ce que vous dites, Nadia. Mais l'expérience de vie avec mes patients et l'expérience peut-être personnelle aussi, me fait dire que c'est un plaisir d'être à deux, de dépendre de l'autre, de l'aimer. Vous savez, l'amour, c'est la dépendance. Si vous n'aimez pas, vous ne dépendez pas. Et si vous aimez, vous dépendez. Vous pouvez être en couple et ne pas dépendre. Et dans ces cas-là, je dirais qu'il n'y a pas l'amour profond qu'on peut avoir entre deux êtres. Celui qui aime ne s'inquiète pas de dépendre. Donc, je suis pour, permettez-moi, Nadia, je ne le dis pas pour m'opposer à vous de façon ferme, je le dis pour que vous entendiez ma conviction. Je suis pour la dépendance. En d'autres termes, je suis pour l'amour. Celui qui aime n'a pas peur de dépendre.
Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à ce que vous disiez sur une des attitudes de guérison qui serait d'accepter de dépendre de quelqu'un, notamment dans la relation de couple. Et alors, j'entends bien sur la notion d'engagement, mais voilà, si vous aviez pu approfondir, parce qu'il me semblait justement que sortir de la dépendance, passer à l'autonomie, c'était pour moi un signe de guérison. Donc je suis un peu perdue face à ce que vous dites. En même temps, ça fait écho, je sens qu'il y a quelque chose à explorer. Voilà, merci d'avance.
Amanda, grâce à vous, je vais compléter la réponse que je viens de donner à Nadia sur la dépendance. Car vous me faites penser à la distinction que j'ai faite entre la dépendance pathologique et la dépendance saine. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y ait une dépendance saine. Qu'est-ce que c'est qu'une dépendance saine ? La dépendance saine, c'est lorsque je suis en relation avec un autre et cette relation je ne la sens pas, qui porte atteinte à mon être. Je ne me sens pas étouffé, et je ne me sens pas non plus qu'il m'empêche de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. La dépendance saine, c'est une dépendance à laquelle je n'y pense pas. Je suis dépendant, je suis heureux d'être dépendant et je ne me demande pas si je suis dépendant. La dépendance malsaine, c'est la dépendance dans une relation à l'autre que je ne supporte pas, que je me sens soumis, que je me sens qu'il abuse, que je sens qu'il me manipule, que je sens que je ne peux pas me séparer de lui. Et là, effectivement, c'est une dépendance malsaine. Et je recommanderais à cette personne de s'éloigner, puisque cette relation est toxique pour lui. Donc il faut bien distinguer, simplement, une dépendance saine et une dépendance malsaine. La dépendance saine, elle est là et je n'y pense même pas. La dépendance malsaine est une dépendance qui me pèse. Voilà.
France Inter, l'inconscient.
Et nous poursuivons avec les questions que vous m'avez laissées.
Oui, bonjour. Je viens d'écouter votre émission. Alors, je voulais vous laisser un petit message en espérant que vous allez l'écouter. Depuis que je suis petite, donc là j'ai 27 ans, j'ai toujours eu un profond mal-être de vivre, même déjà au collège, enfin c'était très présent. Et j'ai suivi beaucoup de psychanalyse et voilà, psychologue, un petit peu des psychiatres aussi, sans jamais sentir un changement profond en moi. Le changement a eu lieu il y a quelques années quand j'ai vécu au contact d'une personne assez toxique dans ma vie. Quand j'ai réussi à repousser cette personne hors de ma vie, il y a plein de changements qui se sont mis à opérer en moi. C'était des déclics qui s'opéraient tout seuls, voilà. En fait, je sais pas, c'est comme si les pièces d'un puzzle s'étaient tout d'un coup mises toutes seules en marche. Après ça, je me suis sentie beaucoup plus en adéquation avec moi-même, comme je l'avais jamais été auparavant. Toutes les psychanalyses que j'avais pu faire jusqu'à maintenant m'avaient mise sur cette voie, mais c'est vraiment moi qui ai opéré un déclic profond pour changer tout ça. Voilà. Et jusqu'à maintenant, je me demande encore quelle place a vraiment la psychanalyse, en fait, surtout dans ma vie.
C'est vrai, Juliette. Vous soulignez un fait qui s'est produit quelquefois du patient que a suivi une analyse, l'a terminée et c'est seulement quelques temps après, parfois une année après, deux années après, va se produire un déclic, un événement majeur qui va changer sa vie. Et nous retrouvons que les changements attendus lors de la cure, se produit du temps après la cure. Eh bien, les effets bénéfiques d'une analyse ne se limitent pas à la durée de la cure, ne se limitent pas à se produire au sein même de la cure. Il y a souvent des effets positifs qui ont lieu plus tard, longtemps après la fin de la cure. D'ailleurs, il m'est arrivé avec des patients, nous avons fait un travail ensemble, nous avons conclu la cure et c'est quelque temps après que je reçois des lettres ou des informations où il me raconte que l'enfant qu'elle avait, par exemple, tant attendu d'être enceinte et d'avoir cet enfant, eh bien, ça s'est produit 2 ans après d'avoir terminé son travail avec moi. Et je n'oublierai pas que je me suis dit plusieurs fois, eh bien, l'analyse a préparé le patient pour qu'il puisse faire ses changements.
Bonjour, docteur Nazio, c'est Valérie. En vous écoutant, il me vient une réflexion, une idée. Enfin, je me souviens que, au cours de mon analyse, je m'étais mise à dessiner un petit personnage qui était moi-même, en fait. Et l'idée, c'était que chaque jour, ce dessin que je faisais devait me faire rire. Et ça, c'est une dimension aussi que je trouve passionnant, c'est que l'analyse, je dirais même la guérison, c'est aussi accéder à un certain humour de soi. Voilà, c'était juste une petite réflexion à ce magnifique podcast que j'ai écouté.
Merci Valérie. J'aurais deux remarques. La première, c'est votre commentaire sur le dessin. C'est très intéressant que vous parliez de dessiner au cours des séances. Parce que moi-même, par exemple, je vais dans un prochain épisode parler de l'anorexie et de l'utilisation d'un dessin dans le traitement de la patiente anorexique. Ça, c'est la première remarque. La deuxième concerne l'humour de soi. Ça signifie le détachement. C'est vrai, un indicateur de guérison, c'est de se sentir bien avec soi-même. Il faut avoir la tolérance de se tromper soi-même et d'avoir cette distance à l'égard de soi-même qui permet que par moments, on sourit de soi, de ses défauts. Vous savez, aujourd'hui, en parlant de la guérison, j'aurais pu dire cette phrase qu'un indicateur des guérisons est celui de reconnaître ses limites, les aimer et même rire de soi-même lorsqu'on voit ses défauts avec une certaine distance.
Bonjour docteur, vous avez dit que une cure devait durer 2 ou 3 ans, pas plus. Alors qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit que ça dure des années et des années et que ça tourne en rond? Merci, au revoir.
Merci Marianne de votre question. Elle est importante parce qu'elle est présente dans l'esprit des nombreux auditeurs. Quand je dis qu'une cure doit durer ou c'est souhaitable qu'elle dure 2 ou 3 ans, c'est le souhait que j'ai, moi thérapeute. C'est que la cure d'un enfant ne dépasse pas 6 mois et que la cure d'un adulte, si possible, ne se prolonge pas au-delà de 2 ou 3 ans. C'est mon souhait et je fais tout pour que cela soit ainsi. Là, vous avez utilisé une expression sur laquelle je voudrais revenir, c'est de tourner en rond. Je dis toujours à mes patients, mais c'est formidable de tourner en rond. L'analyse, la thérapie, peu importe quelle thérapie, quelle technique nous utilisons, il faut tourner en rond. Vous savez, chacun de nous, chacun des personnes qui viennent me consulter et même chacun des personnes qui sont actuellement dans la rue, qui marchent dans la rue, tout le monde a 1 ou 2 problèmes, pas plus. Il est habité par 1 ou 2 difficultés dans sa vie. Il n'y a pas 36, il y a 2. Et il faut, pour résoudre l'une de ces 2 ou les 2, il faut tourner en rond inlassablement jusqu'à ce qu'il y ait une petite porte qui s'ouvre et on dénoue le problème. C'est comme ça l'analyse. La plupart de mes patients viennent, ils me parlent et ils me parlent toujours de la même chose. Et il y a des patients qui me disent « Mais docteur, vous allez être fatigué, vous êtes lassé de m'entendre toujours revenir à mon père ou toujours de revenir sur mon problème avec la maison que je voudrais acheter, etc. » Je vais dire « Je ne me fatigue pas. Je suis ravi de vous entendre inlassablement répéter la même chose. » Et c'est en répétant que nous allons trouver une issue. Chacune des personnes, chacun de mes patients est ainsi. Nous revenons toujours sur 1 ou 2 problèmes qui nous habitent, comme tout le monde.
Bonjour docteur Nazio, je m'appelle Nicolas. Je voulais vous remercier pour vos émissions que je suis en différé. Bien entendu, les histoires que vous racontez sont toutes différentes les unes des autres et différentes de ma propre histoire. Et néanmoins, c'est comme si votre posture, la manière dont vous portez votre attention, rendait possible d'ouvrir des fenêtres à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que je vois surgir, à l'écoute de vos émissions, des images tout à fait surprenantes. Je suis curieux d'avoir votre avis sur la possibilité de mener une analyse de qualité en ligne pour ceux d'entre nous qui n'ont pas accès à ce service à proximité. Merci à vous.
Merci de vos commentaires sur est-ce qu'on peut faire une analyse en ligne. Bien sûr, on peut le faire, ce n'est pas souhaitable. Moi-même, je ne le pratique pas. Je préfère, dans des cas exceptionnels, utiliser à la limite le téléphone, mais pas l'écran. Je préfère, à la limite, utiliser le téléphone. Mais, en vrai, la relation de travail, de l'intimité que signifie dire, confier à l'autre une douleur, une souffrance, c'est mieux de le faire en face à face, en présentiel, comme on dit maintenant. Donc, oui, on peut faire une analyse en ligne de qualité avec un bon professionnel, un professionnel humain, chaleureux, disponible, compétent, mais évidemment, une analyse en ligne ne sera jamais la même chose qu'une analyse interpersonnelle où il y a les deux corps vivants qui sont l'un face à l'autre. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Merci à tous pour votre intérêt et vos questions qui nous ont permis d'approfondir un thème auquel tant nos patients comme le thérapeute sont confrontés, celui de la guérison. Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais remercier Audrey Ripouille pour la réalisation de notre émission et des podcasts, ainsi que Inès De Bruyne à la technique. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. D'ici là, je vous invite à aller sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr où vous pourrez découvrir nos prochains épisodes. Merci d'écouter ces podcasts et s'ils vous inspirent, n'hésitez pas à m'adresser vos remarques et vos questions. J'aime bien vos questions. J'y répondrai avec plaisir dimanche prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.